Nossa.
Et la Marseillaise qui a résonné à nouveau cette nuit à Tokyo. Troisième médaille d'or pour la France, sacrée en aviron au JO. Nous y revenons dès le début de ce journal. Dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron en Polynésie, le chef de l'État qui promet la transparence sur les essais nucléaires menés pendant 30 ans dans le Pacifique et qui se félicite de l'accélération de la vaccination. Rachida Dati rattrapée par l'affaire Carlos Ghosn. 9 mois après son premier interrogatoire, la garde des Sceaux est mise en examen pour corruption passive notamment. Et puis consécration pour Nice, entrée hier au patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 ans après Le Havre, pour lequel on fera le bilan. Tiens, on appelle l'Office de tourisme havrais en direct à la fin de ce journal. À suivre, l'éclairage éco d'Emmanuel Duteil, où en est le projet de fusion entre TF1 et M6. Votre conseil santé avec le docteur Brigitte Milot. Et puis le journal des JO, des nouvelles belles médailles donc pour les Bleus à Tokyo. Ce sera avec Julien Froment. Très bon réveil, vous êtes sur Europe 1, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Théo, bonjour à tous. Et de 3 médailles d'or pour la France, sacrée une nouvelle fois cette nuit au JO de Tokyo. Après Romain Canon en escrime et Clarisse Agbeniénou en judo, la France est championne olympique en aviron, Julien François.
Oui, effectivement, le duo Mathieu Androdias-Hugo Boucheron, intouchable aux deux de couple. Les Français ont devancé les Pays-Bas et la Chine avec un record olympique à la clé. Ils ont bouclé les 2 km en 6 minutes tout rond. Cela faisait 17 ans qu'un couple français n'avait plus gagné une médaille d'or en aviron avec Sébastien Vieilledent et Adrien Hardy en 2004 à Athènes. Alors le duo Androdias-Boucheron, eux-mêmes étonnés d'avoir remporté ce titre olympique chez nos confrères de France Télévisions.
Moi j'étais en PLS complet, donc je vois qu'on est un peu devant, mais je suis pas sûr. Et puis je regardais l'écran comme un bouffon, hein. Je regardais là-bas, mais c'était pas le banc d'écran, il fallait regarder celui-là. Chez Matt, on a gagné, vous faites bah oui.
Moi je réalise pas du tout, je dis ouais, je vois mon nom, putain, je suis fatigué, je réalise pas du tout.
Enfin, on a tout gagné.
On pourra pas nous la retirer, c'est un sacré collier.
Ouais.
J'ai hâte de la ramener à la maison.
C'est un beau collier, effectivement.
Oui.
Quelle est la suite du programme aujourd'hui, Julien?
Eh bien, écoutez, on va suivre le cyclisme, le contre-la-montre homme, avec notamment Rémi Cavagna qui s'élancera à 9h05. Pas mal de sports collectifs avec une chance de médaille en basket 3 contre 3. Les Françaises face aux Américaines en demi-finale à 10h. Et puis en volleyball aussi à 7h20. La France qui affronte l'Argentine, pour le moment bilan mitigé pour les coéquipiers d'Erwin Ngapet. Une victoire, une défaite. Et puis en football, l'équipe de France emmenée par un certain André-Pierre Gignac doit absolument l'emporter face au pays. Le Japon à 13h30 pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Il est 7h13 sur Europe 1. Emmanuel Macron s'engage à la transparence sur les essais nucléaires menés par la France dans le Pacifique. Dernier jour de son déplacement aujourd'hui en Polynésie.
Le chef de l'État qui s'est par ailleurs félicité qu'un Français sur deux soit désormais vacciné en France. Tout à l'heure, dans son discours à Papette, il a appelé les derniers réfractaires à aller chercher leur dose.
Je vous le dis avec beaucoup de force. Nous sommes la nation de Pasteur. Nous sommes la nation des Lumières. Face à un virus, quand tous les spécialistes du monde entier vous disent que le seul moyen de s'en sortir est le vaccin, quand plus de 3 milliards d'habitants de la planète ont été vaccinés, je vous le dis avec force, le seul moyen de nous en sortir, de protéger les plus anciens, les plus vulnérables, de pouvoir aussi rouvrir la Polynésie pleinement, c'est le vaccin. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous. Vaccinez-vous pour vos parents. Vaccinez-vous pour la Polynésie et la France.
Et vaccinez-vous, le message d'Emmanuel Macron alors que l'épidémie galope en France avec près de 27 000 nouveaux cas enregistrés hier.
Il est bien 7h04 sur Europe 1. Les soldes d'été, c'est terminé et les commerçants font grise mine. Émilie Dez, le bilan cette année est très mitigé.
Mais pire, selon une enquête de la Chambre de commerce d'Île-de-France, plus de la moitié des anciennes parisiennes ne sont pas du tout satisfaites de ces soldes, en cause notamment le report de la première semaine qui a été reculée du 23 au 30 juin. Thibaut Hu s'est rendu dans les boutiques de la rue du Commerce dans le 15e arrondissement à Paris.
Dans sa boutique de prêt-à-porter, Manon fait les 100 pas. Les soldes, c'est terminé et les ventes sont désastreuses.
Sur notre chiffre du mois de juillet, on a un trou de 45% du chiffre d'affaires qui n'a pas été fait par rapport à l'année dernière.
Moins de clients, moins de touristes, la faute à la pandémie selon cette gérante.
Tout le monde est parti en vacances et depuis on ne fait plus du tout le chiffre. Les conditions du Covid nous empêchaient d'avoir autant de clients que prévu en magasin.
De l'autre côté de la rue, Olivier fait aussi grise mine. Pour ce directeur d'une enseigne de bien-être, fixer les soldes une semaine plus tard que prévu a été fatal.
Les décalages de dates n'ont pas été à notre faveur étant donné que les soldes ont commencé alors qu'il y avait déjà quelques départs en vacances. Les gens ont l'air d'être pressés de partir, c'est un peu normal.
Et pour certains clients, cette année, l'année, il faut faire avec des petits budgets. Forcément, les soldes, ça passe en dernier.
Les boutiques, on passe devant, on regarde, mais après, on se retient parce qu'on se dit que c'est plus important de passer du temps en famille et de profiter de ce qu'on a actuellement, comme les restaurants, les vacances, le déplacement, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. Les magasins, il y en aura tout le temps.
70% des commerçants parisiens restent optimistes. Ils espèrent toujours une reprise, mais pas avant la rentrée.
Et Thibaut Hue pour Europe 1.
Elle continue de nier toute irrégularité et compte bien faire appel. Rachida Dati a été mise en examen hier soir dans l'affaire Renault-Nissan.
L'ex-garde des Sceaux est soupçonnée de corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir. Des poursuites auxquelles elle avait échappé en novembre dernier après un premier interrogatoire. Marion Dubreuil, qu'est-ce que la justice lui reproche ?
Eh bien, la justice soupçonne Rachida Dati d'avoir utilisé son mandat d'eurodéputée pour monnayer son influence. Entre 2010 et 2013, alors qu'elle siège au Parlement européen, Rachida Dati a également touché comme avocate près de 900 000 euros, notamment grâce à un contrat de conseil signé avec une filiale néerlandaise de Renault-Nissan à l'époque où Carlos Ghosn était encore PDG du groupe. Est-ce que ces honoraires correspondent à des activités déterminées ou s'agit-il d'un emploi de complaisance pour masquer du lobbying ? Rachida Dati avait farouchement nié ses accusations sur Europe 1 dès février 2019.
Ce qui est sorti est honteux. Vous savez, on parlait de la défiance.
Pourquoi ?
Non, mais la défiance.
Vous confirmez avait... que vous
non,
l'avez
pas du tout.
Attends. Perçu.
Non, ce sont des honoraires, ce n'est pas des revenus.
Certes, c'est voilà. 600 000 euros honoraires déclarés.
Parce que non, je suis soumise à un statut. Je ne suis pas ni au-dessus des lois, ni en dessous des lois. Je suis soumise à un statut d'avocat. Tout est déclaré à la haute autorité, dans mes impôts.
Depuis le début.
Depuis le début, tout est déclaré transparent.
Vous savez qu'il suffit d'un simple coup de fil pour vérifier auprès de la haute autorité.
Mais là, c'est accessible, c'est un site accessible. Et puis je veux vous dire, j'ai été magistrat, ma probité, mon honnêteté n'ont jamais été mises en cause.
Ces avocats qui n'ont pas souhaité commenter cette mise en examen ont déjà annoncé qu'ils allaient la contester. En mars dernier, ils avaient demandé au juge de constater la prescription des faits, sans succès.
Marion Dubreuil.
On part à présent aux États-Unis à 7h07 sur Europe 1. 6 mois après l'assaut du Capitole, la commission parlementaire a démarré son enquête.
L'idée est de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé le 6 janvier dernier à Washington. Hier, 4 policiers qui ont fait face aux manifestants pro-Trump lors de l'émeute ont témoigné. Alexis Guilleux, ce nouveau récit rappelle la violence de cette journée.
Oui, et Daniel Hodges se trouvait ce jour-là en première ligne, coincé dans l'encadrement d'une porte sous la pression des manifestants. Il a été frappé à de nombreuses reprises. Il se rappelle des mots de ceux qu'il qualifie de terroristes. Un homme a essayé de m'arracher mon bâton des mains. J'ai réussi à reprendre le contrôle et à le repousser. Il a hurlé « Tu es dans la mauvaise équipe ». Un autre m'a attaqué en criant « Tu mourras à genoux ». Insultes racistes, attaques au gaz, les 4 récits de ces policiers témoignent du traumatisme vécu par les forces de l'ordre le 6 janvier. Le sergent Aquilino Gonel explique par exemple avoir eu plus peur ce jour-là que pendant tout son déploiement en Irak. Un émeutier m'a traité de traître, moi, un vétéran de l'armée. Il criait que je devais être exécuté. Le sergent s'en est également pris aux élus républicains qui boycottent cette commission et continuent de défendre Donald Trump et les manifestants. C'est déconcertant de voir des personnes qui ont prêté serment, des élus, se battre contre moi. Ils ne font pas passer le pays avant leur parti. C'est pathétique et ils ne devraient plus être élus. Cette commission doit se réunir une nouvelle fois à Washington avant la fin de l'été.
Alexis Guilleux, correspondant européen aux États-Unis.
Comme Albi, Le Havre ou Bordeaux avant elle, Nice est entrée hier au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Une véritable consécration, un événement historique même pour le maire de la ville, Christian Estrosi, qui s'est félicité que sa ville devienne pour la planète entière une des villes références du patrimoine mondial. L'inscription au patrimoine de l'UNESCO, c'est aussi un grand moment pour le monde de la culture niçoise. Écoutez la réaction de Muriel Mayet-Holtz, la directrice du Théâtre National de Nice.
C'est magnifique et puis c'est une juste récompense parce que c'est une ville qui est coincée entre la montagne et la mer. C'est une ville d'une grande beauté qui sait se réinventer. On est dans la couleur, dans la terre de Sienne, les ocres jaunes dans la vieille ville. Et on est dans une ville qui bouge et qui est très contemporaine aujourd'hui, très moderne. C'est une ville vraiment qui est en pleine expansion et qui a beaucoup d'émotions encore à partager.
La directrice du Théâtre National de Nice au micro Europe 1 de Thierry Dagiral.
Alors qu'est-ce que ça change pour une ville comme Nice ou comme d'autres ? Une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va appeler à présent le directeur de la communication de l'Office de tourisme du Havre. Bonjour Éric Baudet.
Bonjour.
Il y a 16 ans, en 2005, Le Havre entrait au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une distinction qui, dites-vous, a changé le regard des touristes sur la ville, reconstruite, on le rappelle, par Auguste Perret, après avoir été lourdement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez vu une fréquentation boostée, doublée même du nombre de touristes ?
Oui, nous souffrions d'un déficit d'image parce que la reconstruction d'Auguste Perret s'est basée sur le béton, ce qu'il appelait être la pierre du XXe siècle.
Oui.
Et ce qui fait qu'il y a eu un étonnement général, y compris des médias, et tout le monde, c'est peut-être exagéré, mais beaucoup de personnes sont venues pour dire, mais finalement, pourquoi a-t-on consacré le Havre au patrimoine mondial ? Et on a eu un effet très important avec de surcroît le succès d'un appartement témoin qui expliquait, qui est très pédagogique et qui explique un peu ce qu'est la reconstruction, les valeurs, l'urbanisme, et qui montre que le béton de Perret n'est pas un béton gris, mais un béton qui joue totalement avec la lumière.
Et l'inscription à l'UNESCO permet aussi d'attirer une clientèle plus internationale. À Avignon, par exemple, les Japonais et les Américains sont très présents désormais. Est-ce que c'est le cas aussi au Havre ?
Alors oui, on a une... Alors peut-être moins la partie asiatique touristique, mais en tout cas, oui, énormément au niveau européen de personnes qui, de surcroît, il y a aussi des organisateurs qui font des tours UNESCO, c'est-à-dire qui vous achetez un voyage et vous faites la tournée des sites UNESCO français.
Donc effectivement, ça booste la fréquentation touristique boostée, doublée donc, nous dites-vous, en 16 ans au Havre depuis l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup Éric Baudet, directeur de communication de l'Office de tourisme du Havre. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Et on termine ce journal en musique. Vous avez peut-être vu le film Annette de Léos Carax, film sorti il y a quelques semaines au cinéma et présenté à Cannes. Eh bien, c'est le groupe Sparks qui a signé la bande-son. Sparks qui dévoile aujourd'hui son propre documentaire au cinéma, l'occasion de mieux découvrir le duo aux 25 albums. Angèle Châtelier.
Sparks, c'est Russell et Ron Mael, deux frères aux 25 albums. Un groupe plus prolifique que toutes les légendes de la musique, témoigne le musicien Jack Antonoff dans Sparks Brothers, le documentaire qui leur est consacré, réalisé par Edgar Wright.
We are Sparks, dude.
Pendant deux heures, Sparks, le groupe inconnu le plus connu, se confie sur sa carrière à la lumière de témoignages d'autres artistes ou de fans à travers leurs chansons, qualifiées de musique du futur dans ce documentaire. La pop vient de Sparks, dit-on aussi dans ce film. En 45 ans de carrière, ils en ont d'ailleurs inspiré plus d'un, Depeche Mode, New Order ou Björk, les citent parmi leurs influences.
Angèle Châtelier pour Europe 1.
Dans le journal d'Émilie Dèze. Merci Émilie, il est 7h13.